Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons Simon the Sorcerer, Frogger, Outrunners, Battlezone, Gambare Goemon 2, Shadow of the Beast 3, Iron Lord, un dossier sur la Sega Saturn et la démo Symbolia du groupe Access. Bienvenue sur Rétrovision. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec un épisode qui, comme le veut la coutume, est un best-of, le meilleur de la quatrième saison, avec quelques vidéos jamais diffusées, ce qui veut dire que ce neuvième épisode est donc le dernier de la cinquième saison. On commence avec un test totalement inédit, Simon the Sorcerer sur PC. Si il y a bien un style de jeu qui laisse d'impérissables souvenirs, c'est bien les point and click, qui sont majoritairement extrêmement soignés en vous proposant des scénarios bien plus élaborés qu'un jeu de plateforme ou qu'un beat'em up. Simon est un adolescent sans problème, où Facebook n'existait pas encore et qui va se retrouver plongé dans une autre dimension, bien malgré lui, en découvrant un livre de magie dans son grenier. Dès son arrivée, une lettre l'informe qu'il a été choisi par Calypso et qu'il devra retrouver Sordide, un sorcier belliqueux au service du mal. Le gameplay ressemble beaucoup au pointé-cliqué des LucasArts, avec un HUD bien organisé, à gauche se trouvent les actions, et à droite nous avons l'inventaire dont la manipulation est extrêmement simple. Autre point commun, vous devez choisir une réponse parmi les répliques proposées, et chacune d'elles déclenche une réaction différente, mais la majorité de celles-ci ne sont là que pour nous faire rigoler.
Oh yeah?
Yeah! Yeah!
What are you staring at, mate?
You can talk?
Give the kid a cigar.
Cette version sur PC CD-ROM nous propose une bonne son de qualité, s'adaptant bien aux univers traversés, et tous les personnages s'expriment avec des voix à l'accent british bien prononcé.
Haven't you been conned, mate?
No. The peddler told me he was an old friend of mine. He even bought me a drink.
Simon le sorcier est un excellent jeu d'aventure, très dépaysant et agréable à manipuler. Adventure Soft a tapé dans le mille en nous offrant ce premier épisode qui a su nous envoûter et nous faire passer de super bons moments.
Your savior is here. What did I do to deserve this?
Frogger fait incontestablement partie des grands classiques du jeu vidéo, d'une popularité tellement énorme qu'on le retrouve encore même de nos jours, dans des versions améliorées sur toute machine confondue. Mais revenons à Frogger, l'original sur arcade, édité par Konami en 1981. Vous devez diriger des petites grenouilles à rejoindre leur maison, qui se trouve tout en haut de l'écran. Mais le chemin relève du parcours du combattant, puisqu'il faut traverser une route en pleine heure de pointe, puis une rivière agitée sur laquelle flottent des tortues et des rondins de bois à contre-courant. Le but étant, cela va de soi, de ne pas se faire écraser, ni manger ou de tomber dans l'eau, tout en respectant une limite de temps indiquée par le minuteur symbolisé par une barre. Ce hit fut adapté sur un nombre incalculable de plateformes et nous avons choisi de vous montrer la conversion plus qu'honorable sur ColecoVision. La maniabilité est presque aussi bonne que sur arcade, si ce n'est une palette de couleurs moins étoffée et des sprites beaucoup plus grossiers que son homologue. Encore une borne merveilleuse éditée par Sega, il s'agit d'OutRunners, sorti en 1992 sur le système Multi 32, qui offre un mode 2 joueurs avec la gestion de 2 moniteurs. C'est aussi la suite du légendaire OutRun que l'on ne présente plus. Avant de vous lancer dans la course, vous aurez le choix parmi 8 bolides, avec chacun des propriétés différentes, tenue de route, vitesse, rapport et accélération. OutRunner reprend exactement le même principe que dans OutRun. La course se divise en plusieurs embranchements, vous donnant ainsi le choix de la route à prendre. Celles-ci sont d'ailleurs basées sur des paysages variés. On peut dire qu'en 1992, c'était les dernières apparitions des sprites zoomés, si chères aux productions Sega signées Yu Suzuki. Justement, parlons un peu des graphismes qui sont particulièrement réussis. Les paysages traversés sont magnifiques, ensoleillés et sentent bon la crème solaire. C'est le genre de route que l'on aimerait traverser pendant les vacances. Peu importe la voiture que vous avez sélectionnée, OutRunner dispose d'un style purement arcade niveau conduite. Ici, la vitesse décoiffe, les pistes sont larges et les virages se négocient sans trop de difficultés, sauf certains passages plus étroits qui demanderont l'usage des freins. Les musiques sont toujours aussi entraînantes puisque l'on retrouve les 3 thèmes d'OutRun premier du nom, additionnés de 7 musiques totalement inédites. La borne dispose aussi d'un écran LCD qui affiche le titre de la musique en cours de diffusion. La série des OutRun possède un style très personnel. Ce ne sont pas des simulations de course hyper réalistes, mais plutôt une invitation au voyage, une conduite enivrante avec des musiques de toute beauté, des paysements garantis. C'était en 1983, Atari eut la bonne idée d'adapter Battlezone, une simulation de chars d'assaut sortie en arcade 3 ans plus tôt. Cette dernière avait des graphismes vectoriels, alors que celle sur console affichait des couleurs aux teintes bien militaires. Le gameplay étant répétitif, l'objectif sera alors de marquer le plus de points possible. Pour cela, il faudra abattre un grand nombre de cibles comme des fighters, tanks, super tanks et même des espèces de soucoupes volantes. Battlezone était un indispensable pour tous les possesseurs de la console d'Atari. Cette cartouche laissa de bons souvenirs à toutes celles et ceux qui l'ont essayé. La série des Gambare Goemon est l'une des premières grosses licences de Konami. Elle fut peu connue en Occident malgré une adaptation sur Super Nintendo à la traduction plutôt mauvaise sous le nom de Mystical Ninja. Nous avons choisi de vous présenter le deuxième volet sorti sur Super Famicom en 1993 et qui est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur de la série. A noter qu'il existe un autre Gambare Goemon, le 2, mais sur Famicom uniquement. La petite séquence d'introduction nous raconte comment Goemon et Ibisumaru, en bon patriote, sont repartis au combat contre le général Maginesu et ses hommes lapins. Ces derniers voulant convertir le Japon aux coutumes débridées, si je puis dire, des pays occidentaux. Se déroule à une époque médiévale, ultra humoristique, où il faudra traverser 6 mondes divisés en plusieurs niveaux. Après avoir choisi son personnage, on se retrouve sur une carte où il va falloir arriver au bout de chacune des étapes pour pouvoir avancer et ainsi accéder à la suivante. Ce qui rend ce deuxième opus si attrayant, c'est son système de jeu bien particulier que l'on peut diviser en 4 parties. On commence avec de la plateforme colorée, fluide, disposant d'une maniabilité très précise, où vous aurez l'occasion de manœuvrer des espèces de slugs moyenâgeux complètement délirants, surtout celui avec la pipe. Ensuite, nous avons la traversée des petits villages, idéal pour se refaire une santé ou améliorer son armement. Il est possible de s'amuser à donner des petites taloches aux villageois qui auront une réaction hilarante, surtout à cause de la représentation SD, grosse tête, petit corps. Nous avons ensuite les zones Impact, où vous dirigez un énorme robot, Impact Goemon, et le but est de détruire tout ce qui se trouve sur son passage en esquivant les fossés. Et pour finir, la séquence la plus originale et bien amusante, le combat contre les boss Impact qui se déroule en mode 7. Concentration et synchronisation sont assurément les clés de la victoire pour espérer mener à bien cette bataille. Konami nous prouve une fois de plus qu'ils peuvent exceller sur n'importe quel thème, que ce soit humoristique ou gothique, varié, entraînant, accrocheur, ce deuxième Gambare Goemon est un plaisir vidéoludique à mettre entre toutes les mains. Troisième et dernier épisode de la saga, voici Shadow of the Beast 3, Out of the Shadow, développé par Reflection et distribué par Psygnosis en 1992 sur Amiga. Chose importante à mentionner dans la série des Beasts, c'est l'évolution du personnage. Après la bête du premier, le néandertalien du deuxième, voilà qu'il retrouve enfin sa forme humaine dans le 3. En plus de cela, il est maintenant possible de choisir parmi les 4 mondes que vous devrez traverser pour y récupérer à chaque fois un artefact magique qui, une fois combiné, sont les seuls capables d'anéantir Maléto. Eh oui, encore lui. Ces 4 quêtes vous proposent une progression certes plus linéaire, mais beaucoup moins fouillie que les autres épisodes de Shadow of the Beast. Et la difficulté est revue à la baisse. Il est enfin possible de terminer le jeu sans utiliser un code pour activer les vies infinies. Cependant, méfiez-vous, certaines énigmes sont assez relevées. Je pense notamment au passage des aquariums ou de la fonte des blocs de glace. Cette fois-ci, la maniabilité a été améliorée. Le personnage répond impeccablement aux commandes. Les graphismes sont toujours aussi fidèles à la série, vous plongeant dans cet univers fantastico-gothique. Et que dire des musiques des Anglais Tim Henley Wright qui sont comme à l'accoutumée de toute beauté. La trilogie de Shadow of the Beast ne fait pas l'unanimité chez les rétro gamers. Certains adorent le 2, d'autres ne jurent que par le premier. Mais en ce qui me concerne, j'ai quand même une préférence pour le troisième, qui reprend les points forts de ses deux prédécesseurs, tout en laissant leurs points faibles de côté. Oyez, oyez, braves gens, l'armée ennemie menace notre belle contrée. Toute personne sachant tenir une épée et accessoirement la manier est la bienvenue pour bouter ces sauvages hors de nos terres. Voilà comment nous pourrions résumer l'histoire moyenâgeuse d'Iron Lord. Vous êtes un preux chevalier vivant dans un château en ruine et vous devez parcourir le territoire afin de convaincre les différentes factions qui s'y trouvent de manière à ce qu'elles rejoignent la résistance. Pour vous adjoindre les bonnes grâces des chefs de guerre, vous devrez accomplir diverses missions, comme retrouver un objet ou pratiquer des épreuves d'adresse ou de force, genre tir à l'arc et le bras de fer. D'ailleurs, l'épreuve du bras de fer est d'une difficulté abominable. Nombreux sont ceux qui ont brisé leur joystick en essayant de remporter cette épreuve. Damien DS peut en témoigner. Ces épreuves permettront de prouver à tous que vous êtes un chef né, capable de mener une armée vers la victoire. Mais vos ennemis n'attendront pas patiemment que vous réunissiez vos troupes. Ils vous enverront régulièrement un assassin afin de se rappeler à votre bon souvenir. Les duels à l'épée se déroulent à la première personne. Il faut, comme dans un quick time event, appuyer au bon moment sur la touche, tout en orientant le stick vers la bonne direction pour parer et attaquer. Lorsque vous jugerez que votre force défensive est suffisante, vous pourrez vous mesurer à l'armée ennemie sur le champ de bataille. Là, vous aurez le droit à une vue de dessus légèrement plongeante où il faudra faire évoluer vos unités jusqu'à ce que l'une des deux armées soit anéantie. Graphiquement, Iron Lord ne paye pas de mine, mais il possède suffisamment d'atouts pour satisfaire les amoureux des épopées chevaleresques. Au début de l'année 1993, afin de préparer la succession de la Mega Drive, Sega mit en chantier deux nouveaux projets, Jupiter et Aurora. Le projet Aurora fut rebaptisé Saturn. Ce choix de nom n'est pas anodin, car il s'agit là de la sixième console de Sega. Et l'analogie avec la sixième planète du système solaire vient du fait que le constructeur voulait proposer un tout nouvel univers de jeu avec cette machine, notamment grâce à l'arrivée de la 3D. La sortie planétaire de la console s'étala de novembre 1994 au Japon à juillet 1995 en Europe. Sega misait avant tout sur son expérience dans le domaine de l'arcade, pour proposer aux joueurs casaniers la même expérience que dans les salles bruyantes et enfumées des Game Center. Et ce, grâce à d'excellentes conversions de ses hits de l'époque, tels que Virtua Fighters, Outrun ou Daytona USA. La conversion était d'autant plus simple que, parallèlement, Sega avait développé pour le marché de l'arcade la carte STV, étant l'acronyme pour Sega Titan Vidéo. Titan étant également une des lunes de la planète Saturne. On parle souvent des conversions de jeux d'arcade qui furent l'un des principaux arguments de vente de la Saturne, mais celle-ci a également vu naître de très nombreux hits développés spécifiquement pour elle. On citera notamment la série des Panzer Dragoon ou des Sakura Taisen, Night into Dream et sa manette analogique, Guardian Heroes, Grandia, Burning Ranger, Deep Fair, Shining Force 3, Dragon Force, Enemy Zero ou encore Dark Savior. Si la Saturne n'a pas eu le destin qu'elle méritait, il est intéressant de voir que ceux qui ont eu cette machine en gardent un souvenir ému. Et ce n'est que rétrospectivement que les gens se rendent compte de tout le potentiel qu'elle pouvait développer. Il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'histoire, l'engouement généré par la nostalgie permet à la 32 bits de Sega de reprendre sa revanche sur son éternel rival, la PlayStation de Sony. C'est avec émotion que nous arrivons à la fin de cette cinquième saison. Un grand merci à Julien F et Monsieur B alias Shima X qui m'ont aidé à faire ce dossier sur la Sega Saturn. On se retrouve en septembre avec un numéro exceptionnel pour fêter les 5 ans de Rétrovision avec toutes les vidéos que vous avez envoyées. Mais pour l'heure, place à la démo Amiga Symbolia du groupe Access. Passez de superbes vacances remplies de rétro gaming et on se retrouve à la rentrée pour les 5 ans. A très bientôt sur Rétrovision.